c'est vous Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Le mystère Emiliano Sala s'épaissit, toujours aucune trace de l'avion d'affaires qui transportait le footballeur star des Canaries. Le club de Cardiff, qui venait de l'acheter, assure qu'il n'est pour rien dans le vol parti de Nantes. Les précisions avec Cécilia Arbonne dès le début du journal. Les premiers effets des classes de CP dédoublés, bilan 18 mois après. Le nombre d'élèves en très grande difficulté baisse. Au sommaire également ce soir, Emmanuel Macron avec des élus demain dans la Drôme. Le grand débat a lieu jusqu'au Vietnam. Une commune de la Sarthe mobilisée pour sauver son imprimerie. Plus de 500 emplois en jeu. La petite fille d'Indira Gandhi qui s'engage en politique pour contrer le premier ministre indien dans son fief. Les comédies bien placées au César. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on est dans la cybercriminalité. On nous promet un cyber Pearl Harbor. On va plutôt s'intéresser à nos boîtes mail. Peut-on aujourd'hui échapper aux pirates? Vous avez une adresse Sébastien, un téléphone, une page Facebook peut-être. Peut-on se protéger? Comment? Que risquent nos données, nos photos, nos mots de passe, nos comptes? Dites-nous ce qui vous inquiète. On vous aide à naviguer ce soir entre les pirates. 01 45 24 7000.
France Inter. Même si vous n'êtes pas un fan de foot assidu au transfert à plusieurs millions d'euros, vous vous posez sûrement les mêmes questions que nous sur la disparition d'Emiliano Sala, ce joueur de 28 ans, attaquant italo-argentin, buteur hors pair 12 fois le fond des filets depuis le début de la saison avec Nantes, qui est acheté par le club gallois de Cardiff, mais qui sort des radars en vol au-dessus de la Manche. Bonsoir Cécilia Arbonne.
Bonsoir.
Ça fait 48 heures maintenant que l'avion a disparu, les recherches terminées pour ce soir ne donnent rien. On sait par contre désormais qui pilotait.
Le pilote qui était aux commandes s'appelle David Ibbotson. C'est le dernier tweet, en tout cas, des gardes-côtes de Guernesey. Citoyen britannique d'une soixantaine d'années, il est marié, père de trois enfants, et il aurait une solide expérience dans le transport des parachutistes sur son compte Facebook. Ibbotson s'est géolocalisé à Nantes samedi soir, signalant sa présence à l'hôtel Kyriade, les Champs d'Avaux, tout près de l'aéroport.
Pour qui travaillait-il exactement?
On l'ignore. Ce soir, le nom d'un agent de football à la réputation sulfureuse qui n'a plus le droit d'exercer revient sur les réseaux sociaux. C'est un Écossais célèbre dans le milieu des transferts. Il jouerait les intermédiaires régulièrement en coulisses entre des joueurs français et des clubs du championnat anglais de première ligue. Son nom en tout cas n'apparaît pas sur le registre de l'aviation américaine où est immatriculé le Piper Malibu disparu. Ce monomoteur construit en 1984 dispose d'une licence de vol valable jusqu'en 2021 et son propriétaire officiel, c'est une société domiciliée à Norfolk, un comté de l'est de l'Angleterre.
Dernière précision, Cécilia, le club de Cardiff dément être lié au dernier voyage ou à ce qui semble être le dernier voyage d'Emiliano Sala.
Le président de Cardiff City, Mehmet Dalman, cité par un site d'information Wales Online, affirme que le club avait proposé à l'attaquant argentin de s'occuper de son déplacement, mais le buteur aurait refusé et aurait pris ses propres dispositions.
Cécilia Arbonne pour ces détails. Un portrait géant d'Emiliano Sala est déployé depuis aujourd'hui devant le centre d'entraînement du FC Nantes. La séance de demain sera ouverte au public. Les joueurs lui rendront hommage. Enfin, côté transfert, celui officiel maintenant de Mario Balotelli à Marseille, libéré par Nice. L'attaquant italien a signé au moins jusqu'à la fin de la saison.
C'était la mesure phare du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Le dédoublement des classes de CP dans les quartiers défavorisés, mesure lancée à la rentrée 2017, puis étendue au CE1. L'idée est de réduire le nombre d'élèves à 12 maximum pour un enseignement plus adapté aux enfants les plus en difficulté. Un an et demi après, premier bilan, dressé par la rue de Grenelle. Et c'est, sans surprise, globalement positif, Alexis Morel.
C'est notamment pour les élèves les plus en retard que la mesure a un impact, selon les statistiques du ministère. Dans les CP dédoublés, la proportion d'élèves en très grande difficulté a baissé de près de 8% en français et de 12,5% en mathématiques. Cette amélioration peut paraître modeste au regard de la très forte attente politique autour de cette mesure, mais dans l'entourage de Jean-Michel Blanquer, on parle de premiers résultats très encourageants, conformes aux études internationales. Pour que ça fonctionne encore mieux, il faut continuer d'adapter la pédagogie à ces classes dédoublées, selon Fabienne Rosenwald, directrice de l'évaluation au ministère.
Avec des pratiques encore plus différentes, puisque quand on n'en a que 12, les enseignants peuvent imaginer beaucoup plus de différenciation, de personnalisation, on pourrait sûrement avoir de meilleurs résultats. Mais on est à la première année, donc on sait très bien que la première année, c'est aussi une année d'installation. Hein. On peut imaginer d'autres évolutions plus fortes qui, dans ce cas-là, s'ajouteraient aux effets déjà positifs qu'on voit et permettraient d'atteindre des effets beaucoup plus forts.
Les enseignants, justement, ils sont clairement conquis par les dédoublements. 82% d'entre eux constatent une meilleure dynamique de classe. 98% disent mieux identifier les besoins des élèves dans ces CPA 12.
Les classes dédoublées toucheront tous les CE1 de REP et REP plus à la rentrée prochaine. 300 000 élèves au total. L'autre chantier du moment pour le gouvernement, c'est le grand débat pour répondre aux revendications des Gilets jaunes. Troisième étape demain dans la Drôme pour Emmanuel Macron. Non plus un échange marathon de plus de 6 heures avec 600 maires, mais un déjeuner avec des élus et sans caméra. Laurent Wauquiez sera dans la salle. Il verra le président en tête à tête avant. Loin de l'Élysée, le débat se poursuit. Plus de 100 000 contributions sur le site en moins de 24 heures. Et les Français de l'étranger s'y sont mis aussi. Deux rendez-vous pour échanger, par exemple, à Bangalore, en Inde, un à San Francisco, plusieurs au Vietnam. Organisé cela par un ancien avocat originaire de Nantes que Béatrice Duguet a eu au téléphone.
Certes, Vincent Ricolo n'a croisé que quelques touristes français pour débattre à l'hôtel de Danang hier. La pluie a freiné les autres, nous raconte-t-il à l'issue de la réunion. Il attend des chefs d'entreprise ce mercredi. À 10 000 km, la crise des Gilets jaunes n'a donc pas échappé à cet homme de loi qui enseigne aujourd'hui le droit à l'université de Saïgon.
On voit bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On défie des distances maintenant avec Internet et les nouvelles technologies.
Les images l'ont heurté même. Pas formellement de manifestations les samedis, bien sûr, chez les Français installés au Vietnam, mais des revendications, oui.
Il y a probablement un esprit gilet jaune chez certains. Un thème qui revient très très souvent chez les expatriés français au Vietnam, c'est le coût de la scolarité, et donc l'égalité entre les enfants qui vivent sur le territoire national, dans les dom-toms, et les enfants qui sont évidemment expatriés avec leurs parents.
Pour évoquer ces sujets et bien d'autres, des réunions donc à travers le pays, Hoi An samedi dernier, Danang hier, Saïgon samedi prochain, où il attend pas mal de monde. Ce grand débat est une chance, dit Vincent Ricoulou.
En fait, ce qui manque à la France, c'est plus un destin collectif, mais on peut le construire. Et ce qu'il faut, c'est redonner de l'optimisme, parce qu'on est quand même dans une dépression collective qui fait qu'il y a une tentation de considérer que l'avenir est totalement bouché, ce qui est totalement faux.
La synthèse de ces débats sera communiquée soit aux élus de ces Français de l'étranger, soit à la plateforme du Grand Débat.
Et Marlène Schiappa participera demain à l'émission politique de France 2, vendredi à celle de Cyril Hanouna sur C8. Ce qui lui vaut attaque et sarcasme sexiste hors limite de certains dans la classe politique. Et puis toujours à propos des Gilets jaunes, la proposition de loi anti-casseurs largement réécrite par les députés en commission. Il supprime le premier article, critiqué jusque dans la majorité. Il prévoyait que le préfet puisse autoriser 6 heures avant une manifestation et jusqu'à sa dispersion des palpations et des fouilles dans un périmètre donné.
Il est 19h08 sur France Inter, l'inaction climatique décidément dans l'air du temps.
Oui, il y a la pétition en ligne, c'est plus de 2 millions de signataires. Il y a aussi maintenant cette initiative du maire écologiste de Grande-Synthe dans le Nord qui engage un recours contre l'État pour non-respect de ses engagements en matière de climat. Recours devant le Conseil d'État, une première pour une municipalité. Non loin de là, à Dunkerque, on parle énergie renouvelable aux assises européennes de la transition énergétique, notamment des enjeux du développement de l'éolien et du photovoltaïque. Et on récompense pour la première fois les innovations dans le domaine de la production d'hydrogène, comme cette unité de production à partir de biomasse, projet révolutionnaire sur le plan écologique et économique, Adrien Toffolet, et qui pourrait enfin permettre de se passer du pétrole.
Privilégier la biomasse pour produire de l'hydrogène, c'est d'abord écologiquement intéressant. On peut utiliser les déchets verts, mais aussi du lisier de porc, des fientes de volaille, des pailles de céréales et même des ordures ménagères organiques. Une technique déjà connue, mais jusqu'ici mal maîtrisée. Le projet Inoka, développé par Hafner Energy, améliore de façon considérable les résultats. Pour Philippe Hafner, l'hydrogène est enfin une solution d'avenir.
On peut vraiment parler d'alignement de planète. Il y a 2 ans, on n'avait pas du tout ce contexte. On a à la fois la technologie pour utiliser l'hydrogène, la nécessité pour l'environnement et les solutions technologiques pour la production d'un hydrogène vraiment compétitif.
Un coût de l'hydrogène divisé par 3, une énergie donc concurrentielle vis-à-vis des énergies fossiles et complémentaire de l'électrique à batterie et qu'on pourrait enfin utiliser pour les voitures, poids lourds, cars et bateaux. Et puis, cette technologie permet de résoudre le problème de l'œuf et de la poule. Sans véhicule à l'hydrogène, pas de station pour se ravitailler et sans station, pas de véhicule. Leur unité de production fabrique de l'hydrogène, mais peut peut aussi produire un gaz synthétique concurrent du gaz naturel qu'on peut vendre le temps d'amortir financièrement les investissements. Bref, en France, deux stations vont voir le jour l'année prochaine, à Vitry-le-François dans la Marne où se trouve l'entreprise et à Strasbourg, elles pourront alimenter respectivement 260 et 1080 véhicules et ce n'est qu'un début.
L'hydrogène à la place des énergies fossiles, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Dans la Sarthe, à la limite du Loir-et-Cher, c'est toute une commune qui se mobilise pour sauver sa papeterie, Bessé-sur-Braye, 2400 habitants, et son usine Arjo-Wiggins, qui fabrique notamment des cartes à jouer pour les casinos du monde entier. Arjo, 550 emplois, un pilier de l'économie locale, mais en redressement judiciaire depuis le début du mois. Alors pour trouver un repreneur, ils étaient près de 400 dans la rue cet après-midi. Boris Allier.
Certains commerçants ont baissé leurs rideaux pour l'occasion. La caisse d'épargne, elle aussi, a fermé ses portes. Tous veulent exprimer à quel point la vie de la commune dépend d'Arjo et de ses salariés.
Cette entreprise qui est quand même le poumon économique de la commune.
Devant l'hôtel de ville, le maire Jacques Lacoche parle pour tous les villages des environs.
Ça impacte tout le monde. On a des communes jusqu'à 20 km, quoi. La région centre et la région du Pays de la Loire qui sont concernées. Je disais toujours, quand Arjo tousse, on a des frissons, quoi.
Des frissons, les habitants peuvent en avoir lorsque le cortège passe devant l'ancienne filature, puis devant l'ancien imprimeur Colwell. Deux sites qui ont fermé il y a quelques années, ils sont aujourd'hui en friche.
On a vraiment l'impression de venir à des obsèques aujourd'hui.
Patricia est esthéticienne, elle a ouvert une boutique il y a 18 ans à Bessé.
C'est vrai que j'ai une partie de ma clientèle qui est de l'entreprise d'Arjo Wiggins. Donc là, je pense que ça va même devenir un gros désert, quoi.
Pour éviter d'en arriver là, Laurent Trudel, représentant des salariés, mise beaucoup sur la visite d'un éventuel repreneur prévu ce jeudi.
Pour le moment, c'est juste une visite. Hein, ça. C'est pas pour ça qu'il va acheter. On est un peu comme à la brocante, quoi. Il regarde dans la caisse, mais il va peut-être prendre ce qui l'intéresse, quoi.
Et les potentiels candidats ont jusqu'au 4 février pour se manifester.
Reportage signé Boris Allier de France Bleu Maine. Un enfant de 7 ans qui apporte le pistolet de son père policier à l'école et qui tire dans la cour de récréation. C'était hier après-midi à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Il n'y a pas de blessés, mais le fonctionnaire évidemment va devoir s'expliquer à la police des polices. Encore une amabilité de Rome à Paris, c'est la manière de faire des populistes, Di Maio et Salvini, qui par ailleurs jouent la surenchère pour leur propre parti à l'approche des européennes. La sortie du jour est celle du ministre de l'Intérieur et président de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, qui espère que les Français se détourneront bientôt du parti d'Emmanuel Macron. Propos insignifiants et inamicaux, répond le Quai d'Orsay. Mais on ne va pas jouer au concours du plus bête, assure la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. En Inde, l'opposition se met en ordre de bataille à quelques mois des législatives, avec l'entrée officielle en politique de la petite fille d'Indira Gandhi, Priyanka Gandhi, portrait quasi craché de sa grand-mère, la dame de fer. Sébastien Farcy est à New Delhi.
Cheveux courts, lignes fines et nez aquilin, Priyanka Gandhi rappelle à beaucoup d'Indiens sa grand-mère Indira Gandhi, première ministre à la poigne de fer dans les années 70 et 80. La jeune femme de 47 ans, habituellement très effacée, rentre dans l'arène politique en prenant la tête de la section de l'Est de l'Uttar Pradesh où se trouve Benares. Un rôle difficile car c'est dans cette ville sacrée qu'a été élu le premier ministre sortant, Narendra Modi. Mais le Congrès espère que cette intégration mettra fin à sa déroute. Ce parti qui a dirigé les deux tiers des gouvernements depuis l'indépendance, a en effet obtenu moins de 10% des sièges de l'Assemblée il y a 5 ans. Le parti nationaliste hindou au pouvoir dénonce dans cette élévation la tradition dynastique du Congrès, dont la direction n'est quasiment jamais sortie du giron de la famille depuis la présidence de Nehru en 1951. Priyanka Gandhi a une autre faiblesse, son mari. Robert Vadra est en effet soupçonné d'accaparement illégal de terres et les adversaires du Congrès utiliseront cette arme pour attaquer les Gandhi pendant la campagne qui débute. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Que se passe-t-il au Venezuela? Juan Guaido, le président du Parlement, s'auto-proclame président en exercice du pays, lui qui avait appelé des milliers de Vénézuéliens à descendre dans les rues. Ils sont effectivement très nombreux en ce moment à Caracas. Et à l'instant, depuis Washington, Donald Trump reconnaît le président du Parlement comme président par intérim. On suivra évidemment tout cela. Le tennis et Lucas Pouille dans le dernier carré à l'Open d'Australie. Ils ne sont que 14 Français à l'avoir fait en grand chelem. Mais son adversaire en demi-finale sera un très gros morceau, rien de moins que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qualifié lui après l'abandon du japonais Kei Nishikori. Peu importe, Lucas est sorti du trou noir pour sa compagne Clémence, après une grave crise de confiance l'an dernier. Elle l'a dit à Fabrice Abgras à Melbourne.
Il revient de loin, il m'envoie des messages, je disais, ça va être dur, ça va être difficile. Et je disais, non, on va y arriver tous ensemble, tu vas revenir, c'est obligé. T'es fort, t'es un champion, tu reviendras, il va falloir travailler, faut être patient. C'était dur parce que tu te dis, quand est-ce qu'en fait ça va revenir? Tu sais qu'il est capable de faire plein de belles choses, mais c'est un déclic, c'est lui qui doit avoir ce déclic. Toi, tu peux rien faire, t'as beau lui dire, t'es fort, t'es machin. Si lui n'a pas le déclic.
Il a vécu une sorte de burn-out?
Je pense que c'est ça. Je pense que les joueurs, c'est pas des machines, c'est pas des robots. En fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui l'étaient aussi, mais quand ça t'arrive pas, tu t'en rends pas compte. Comme une blessure, tu te rends pas compte qu'il y a plein de joueurs autour qui se blessent. Et ouais, je pense que le circuit est très dur, c'est des semaines très dures, c'est énormément de sacrifices, c'est énormément de fatigue. Et ouais, je pense que c'est ça, ouais, c'est un burn-out du tennis. Mais ça revient et c'est bien, mais ouais, je pense que c'était ça.
Et chez les femmes, Serena Williams ne battra pas le record historique de 24 victoires en Grand Chelem. L'américaine a été sortie par la Tchèque Karolina Pliskova.
Après les Oscars hier, Sébastien, les nominations pour les Césars aujourd'hui.
Oui, deux films en tête, en lice pour 10 prix chacun, dont meilleur film et meilleur réalisateur, les 4 millions d'entrées du Grand Bain de Gilles Lelouch et le premier film de Xavier Legrand, Jusqu'à la garde. D'un côté, des loustiques un peu paumés dans leur vie qui se lancent dans la natation synchronisée avec notamment Mathieu Amalric, Philippe Catherine, Benoît Poulvord et Guillaume Canet. Et puis de l'autre, Denis Ménochet et Léa Drucker dans une histoire de violence conjugale. On n'oublie pas le western de Jacques Audiard, les frères Sisters, et le très drôle En liberté de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel et Pio Marmaille. Sélection donc variée, Corinne Pellissier, et peut-être une comédie récompensée, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé.
Maman, j'ai répété.
La dernière fois, c'était il y a 4 ans.
Il y en a plein qui vivent très heureux.
5 Césars pour Guillaume Gallienne et son film Guillaume et les garçons à table. Meilleur acteur, meilleure adaptation et surtout meilleur film, à l'époque déjà presque une exception, dans un univers jugé souvent trop austère et qui avait conduit l'Académie l'année dernière à récompenser avec un nouveau prix le film cumulant le plus grand nombre d'entrées en salle. Au petit jeu de la fréquentation, Le Grand Bain de Gilles Lelouch ne battra certainement pas cette année le troisième volet des Tuches d'Olivier Barou, mais il possède de nombreuses qualités qui devraient mettre à peu près tout le monde d'accord. Un succès critique et populaire, 4 millions de spectateurs en salle, des comédiens tous formidables, Philippe Catherine, Jean-Hugues Anglade en tête pour le second rôle masculin, et un scénario pas banal autour de Cabossé de la vie qui se lance dans un concours de natation synchronisée.
Oh non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
Je peux pas mes habits pour courir là. Ah bon, on s'en fiche.
Une comédie sociale audacieuse et intelligente, bien écrite, bien réalisée, qui offre une image renouvelée de Gilles Lelouch, en passe de devenir à 46 ans la nouvelle coqueluche du cinéma français.
Ça vient un peu l'ange?
Non.
J'ai mis l'autre bon sang.
Et la cérémonie des Césars, c'est le 22 février dans un mois. On termine avec le Grand Prix du Festival de la BD d'Angoulême qui, lui, vient de tomber. C'est la dessinatrice de manga Rumiko Takahashi qui est récompensée cette année. Auteur de L'Amou, de Juliette Je t'aime ou de Ranman 1/2. Auteur culte au Japon et première femme, Jacqueline Petros, primée depuis 19 ans.
Rumiko Takahashi est une surdouée du manga. Née en 1957, elle s'est imposée dans le shonen, ses histoires pour les jeunes garçons, même si le genre est apprécié par tous. D'ailleurs, ses héros sont des héroïnes, des filles de caractère que les combats n'effraient pas. Elles sont entourées de personnages pittoresques, excentriques, confrontées à des situations drôles ou absurdes. Mais surtout, ces mangas ne sont jamais manichéens. Aujourd'hui, Rumiko Takahashi est l'auteur de 7 séries cultes, vendues à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde. Elle est aussi très populaire grâce aux séries télé adaptées de ses mangas comme L'Amou ou Juliette Je t'aime, diffusées en France dans les années 80. Ce n'est pas la première fois qu'un mangaka obtient le Grand Prix d'Angoulême. Toriyama et Otomo avaient été distingués en 2013 et 2015, mais le fait que ce soit une femme est plus rare. Claire Bretéchet en 82 a été primée pour le 10e anniversaire du festival et Florence Sestac a été Grand Prix en 2000. C'est ainsi une façon d'éloigner la polémique qui avait perturbé Angoulême en 2016. Sur la sous-représentation des auteurs femmes.
Rumiko Takahashi, auteur notamment de Ranma 1/2, j'ai bugué tout à l'heure. Merci Sébastien Léas. Grand Prix donc à Angoulême cette année.
Eh ben merci beaucoup Sébastien. À demain.